Dimanche dernier, le Seigneur disait, menaçait les autorités religieuses d'être tout bonnement remplacées par une autre Église et par une autre hiérarchie qui produirait à la vigne son fruit. Et là, c'est dans le prolongement. On va avoir plusieurs pièges comme ça, c'est le premier qu'on lit ici, et il y en aura trois. Et ensuite, on aura le fameux passage des malédictions, où il désigne clairement en quoi l'esprit de ses auditeurs est totalement pervers. Cette perversité... Oula, un gros chagrin. Cette perversité, elle est spirituelle, et c'est pourquoi Jésus la dénonce avec tant de force. Alors, rendre à César ce qui est à César, c'est rendre à la pensée profane ce qui est de l'ordre du profane, et à la pensée du sacré ce qui est de l'ordre du sacré. Et il ne faut faire en aucun cas la confusion entre l'un et l'autre, entre le sacré et le profane. Et Jésus, dans son enseignement, notamment johannique, apprend toujours à son auditoire à distinguer ce qui est d'en haut de ce qui est d'en bas, de ce qui est terrestre, de ce qui est céleste. Et c'est très important. Et là, on a un auditoire qui fait totalement la confusion. Et comme il est pervers, Jésus ne donne pas de leçons en dehors de la réfutation qu'il fait. La vérité, c'est le principe du sacré en général. Parce que le sacré est issu d'une révélation, en tout cas pour le christianisme, et que sur cette révélation, nous pouvons fonder notre confiance d'une vérité exhaustive, même si dans son explication, elle réclame des développements. Mais la vérité en elle-même est exhaustive. Et en revanche, le profane, c'est le monde du relativisme. Vous voyez, même la science est incapable de formuler une proposition qui soit totalement vraie, parce qu'elle est en construction, parce qu'elle est en évolution perpétuelle, et qu'elle ne peut pas communiquer une telle formulation. Une telle formulation de la vérité est réservée à la révélation divine. Donc, on ne peut pas surtout pas mélanger le domaine de César, domaine profane, au domaine divin lui-même. Alors, la perversité est soulignée par le fait, par le mensonge de ceux qui abordent Jésus, et très habilement ici. Ils disent d'abord une grande vérité. Toi, tu es libre dans tes propos. Toi, tu es libre dans tes idées et tu ne te laisses impressionner par aucune autorité, par personne. Et ce que tu dénonces est toujours vrai. Ils évitent le terme de vérité. Ils sont plutôt dans l'authenticité, dans la liberté du Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le pousser à l'orgueil. Et ça, on reconnaît vraiment la voix du diable là-dedans. Nous vivons dans une société de droit, dans une société prétendument de liberté. En réalité, elle est très comptée, cette liberté. Mais au nom de cette liberté, les gens demandent les choses les plus absurdes. D'avoir des droits qui sont les plus monstrueux parfois. Et on voit bien que la liberté elle-même, prise en absolu, est souvent contraire et à la vérité et à l'amour. La liberté, qui est l'étendard sous lequel notre pays fulmine, ou en tout cas trône, cette liberté n'est pas garante pour les citoyens qui la composent, ni de justice, ni de joie, ni de paix. Ça, c'est réservé vraiment au royaume de Dieu. Tu es libre. Tu ne te laisses impressionner par personne. Ah, t'es vraiment grand, toi. Alors, dis-moi, là. l'impôt à César, est-ce qu'on doit le payer, oui ou non? Est-il permis? Là encore, on a un dualisme ici qui est à la fois moral et politique. Un dualisme, on choisit entre oui et non. Il n'y a pas de milieu. Effectivement, il n'y a pas de milieu, mais il y a quelque chose au-dessus, quelque chose au-delà, et c'est le choix de Jésus. Vous voyez, on fête aujourd'hui Jean-Paul II, cette grande, magnifique figure que nous connaissons tous. Une caractéristique de la pensée et de l'action de Jean-Paul II s'inspire directement de cette attitude de Jésus ici. Jean-Paul II, donc, était un Polonais sous un régime communiste avant d'aller s'installer à Rome, eh bien, donc un régime totalitaire. Il a toujours su à la fois critiquer, mais pas politiquement. Il n'a pas critiqué le régime, il n'est pas entré dans des polémiques, vous voyez, d'ordre politique, d'ordre social. Mais en revanche, il a fait quelque chose de bien plus profond et de bien plus efficace. Il a critiqué les valeurs. Il a exalté en son temps les droits de l'homme parce que il vivait dans un pays où ses droits étaient complètement niés. Et c'était le côté profane, vous voyez, droits de l'homme, c'est profane. C'est tiré bien sûr du décalogue, mais c'est profane comme abord. Donc il a pris les choses de ce point de vue-là, et sans prendre à partie directement le communisme, vous voyez, mais il a dénoncé tous les régimes où il n'y avait pas les droits de l'homme, etc. Il se situe au niveau des valeurs, et il a toujours agi ainsi, Jean-Paul II. Jésus fait, il s'inspire, Jean-Paul II, de son maître, qui ici, se situe au niveau des valeurs. Il ne prend pas un parti, il ne rentre pas dans le dualisme politique, moral. Est-il juste d'obéir à un incroyant, vous voyez, ce genre de choses? Non, il se situe au-dessus, au niveau des valeurs, par le fait qu'on ne peut pas confondre le profane et le sacré, que ce sont deux choses complètement différentes. L'immanentisme, qui qualifie la position de l'auditoire de Jésus, c'est-à-dire immanent, on est dans le monde, on agit, on est peut-être religieux, mais c'est uniquement par rapport à la gestion du monde et pour la vie présente, on ne s'occupe pas de l'éternité, vous voyez, et la religion doit être utile au fonctionnement du monde. L'immanentisme, c'est ça. Et parce que son auditoire, il est composé d'Hérodiens d'abord. Les Hérodiens, c'était des gens qui avaient fait alliance avec Rome, qui s'enrichissaient ainsi, parce qu'ils bénéficiaient de la protection romaine. Et donc, eux, ils étaient vraiment partisans de payer l'impôt à César. Les pharisiens étaient partagés. Les uns étaient contre, les autres pour. Mais peu importe, son auditoire était complètement lié, je dirais, au pouvoir de ce monde. Ils tiraient leur puissance financière de là, et donc leur notoriété aussi. Jésus dit que dénonce l'immanentisme d'une manière très forte ici. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tandis qu'eux confondent toutes les choses, de sorte que agir au service du monde devient une vertu. Ça devient quasiment une œuvre de la foi. Le croyant devrait s'engager à gérer le monde, peu importe les choix moraux du monde. L'essentiel, c'est d'être là, présent. Ça, c'est l'immanentisme. On appelait ça, à un certain temps, soupidis, on appelait ça l'américanisme aussi. L'action à tout crin, sans considération du contenu, sans considération de la proclamation du kérigme chrétien. L'immanentisme religieux, ça provoque l'extinction de la foi. Et c'était la menace que Jésus disait juste au passage juste avant, qu'on a lu dimanche dernier. C'est « La vigne va vous être retirée parce que vous ne lui faites pas produire du fruit. » Et ça, c'est... On doit souligner, eh bien que la transcendance doit faire partie de notre vie, elle doit être intégrée à notre existence, parce que le salut dépend de cela. Rendre à César ce qui est à César. Le salut n'est pas à la portée du monde, n'est pas à la portée du profane. La gestion matérielle, c'est, ne peut pas prendre le tout de la vie de l'homme. Pourtant, on sait bien, on est humain, combien ça compte. Et même le temps que nous y passons, eh bien, est majoritaire par rapport au temps que nous passons à méditer le sens de la vie ou tout simplement à nous aimer les uns les autres et à aimer Dieu. Mais on n'a pas le temps de s'aimer comme on voudrait s'aimer. On n'a pas le temps d'aimer Dieu comme on voudrait l'aimer. Le Seigneur le sait. Et il se plaît à nous voir ainsi dans cette frustration. Elle est bonne, c'est un très bon signe ça quand on aspire à prier et qu'on se plaint et qu'on gémit de ne pas avoir le temps, assez de temps pour le faire. Ce monde-ci, cette expérience, cette vallée de larmes, comme l'appelaient les anciens, eh bien, c'est justement cette épreuve qu'il faut surmonter. Donc, la joie, la paix, ça appartient au royaume de Dieu. C'est pas, aucune gestion matérielle ne pourra nous l'apporter. On l'entend tout le temps, ça. Allez, on va, je sais pas, on va mobiliser les gens dans telle ou telle forme de gestion, mobiliser les gens dans telle ou telle forme d'idéologie politique pour obtenir enfin un monde de paix, enfin un monde de joie, un monde humain. Ça revient sans arrêt, et sans arrêt, la réalité dément cette affirmation. Sans cesse. La réalité juge la fausseté de cette affirmation. Seul le royaume de Dieu peut nous apporter la joie et la paix. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui sont les fondements de ce royaume, de cette joie, de cette paix. Donc, rendons à César ce qui est à César, mais surtout rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, dans le texte qui, pas celui qui suit immédiatement, mais le chapitre suivant, qui récapitule à travers les bénédictions et les malédictions que Jésus formule à l'égard des malédictions pour les pharisiens, les scribes et les grands prêtres, eh bien, l'immanentisme est un poison pour les âmes. C'est pas simplement une exagération, c'est un poison. Et c'est inspiré vraiment par les ténèbres et non pas par la lumière. Et ça, ce poison-là et ceux qui le véhiculent, donc là il vise son auditoire, pharisiens, hérodiens, etc., ceux qui véhiculent ce poison de l'immanentisme seront châtiés durement dans l'autre monde. On croit que tout est indifférent moralement ici-bas, mais ce n'est pas le cas. Alors, dans notre vie, bien, rétablissons le bon équilibre, la bonne répartition entre le profane et le sacré, et sachons surtout les distinguer nettement. Un autre exemple de confusion, c'est la vie psychologique. On va confondre ces émotions psychologiques avec les sentiments du cœur, avec les sentiments de l'âme, les sentiments spirituels. Ça aussi, c'est une confusion entre le profane et le sacré. Non, le psychisme, ça, c'est du profane. Ça compte, comme la forme de mon nez, c'est du profane. Mais elle compte, pour moi, si je veux respirer, il faut que mes sinus soient ouverts, que sais-je. Mais ça reste du profane. Donc, apprenons bien et prenons, soyons comme des enfants devant Dieu. Apprenons de lui l'essentiel, parce que c'est l'essentiel qui nous fait vivre. Et enfin, un petit mot quand même sur cette dimanche d'émission. Donc la quête sera consacrée à ça, c'est pour l'émission dans le monde que supervise le Vatican. avec des projets d'école, de ceci, de cela. Donc c'est une très bonne chose. Donc prions pour que l'œuvre de Dieu grandisse toujours dans le monde.